Merci d'abord de votre invitation. Merci à tous les Lyonnais qui ont contribué. Ça me fait très plaisir d'être ici, et notamment parce que ça me permet effectivement de retrouver Alexis, qui a été un de mes plus brillants étudiants à Orléans, et donc que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver. En effet, j'ai toujours oscillé dans mes recherches entre les questions d'économie, de politique monétaire et les questions d'économie bancaire. Et aujourd'hui, finalement, la crise nous donne la possibilité de faire les deux choses en même temps. C'est difficile de ne pas parler de politique, de parler plutôt de politique monétaire, sans évoquer les questions de régulation bancaire. Et finalement, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce qu'on voit bien que la crise a modifié la donne du point de vue de la politique monétaire. On pourra sans doute jamais plus parler de politique monétaire comme on l'a fait jusqu'à présent. Il y a effectivement une donne qui a été totalement modifiée par cette crise. La question étant de savoir si c'est juste un problème passager, c'est-à-dire est-ce que c'est cette crise qui a provoqué une modification dans la façon dont nous faisons aujourd'hui de la politique monétaire. Vous savez, vous avez entendu parler de ces fameuses politiques dites non conventionnelles, qui consiste en fait à injecter des liquidités banques centrales dans l'économie, soit à l'occasion d'achats de dettes publiques, soit pour essayer de supporter les banques qui ont des problèmes de liquidité et plus encore des problèmes de capitalisation. Donc est-ce que c'est un phénomène passager ou est-ce que c'est quelque chose de plus permanent? En d'autres termes, est-ce que à l'avenir, la politique monétaire, en période de crise ou non, devra tenir compte de ce qui s'est passé au cours de ces derniers temps. Alors, la réponse que je vais vous apporter, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que pour partie, c'est quelque chose, en effet, de passager, heureusement. Mais pour une autre partie, c'est vrai que la politique monétaire devra se poser des questions qu'elle ne se posait pas jusqu'à présent. Peut-être elle va s'exprimer dans un cadre différent de celui qui était le sien jusqu'à présent, notamment pour ce qui concerne ces questions institutionnelles et la question de son indépendance, qui est une question dont on parle beaucoup. Dont on reparle beaucoup et à propos d'ailleurs de l'actualité politique française actuelle. Alors, pour développer ce point de vue, je vais d'une part vous parler du consensus de politique monétaire qui existait jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on racontait? Sur quoi on avait réussi à se mettre plus ou moins d'accord? Plus ou moins d'accord sur la façon de mener une politique monétaire, on va dire, dans les pays avancés. Ensuite, je me poserai la question de savoir ce que la crise a changé, hein, quels sont les bouleversements qui sont intervenus, en quoi, effectivement, la politique monétaire est devenue hétérodoxe ou donc non conventionnelle. Et enfin, bien, je essayerai de demander qu'est-ce qu'on va ajouter de plus à la politique monétaire? Ce qu'on va ajouter de plus, ça va évidemment tenir à la question de la stabilité financière. Alors, démarrons donc tout de suite sur le consensus de politique monétaire avant la crise. Hein, quels étaient en gros les points sur lesquels on s'était mis d'accord? Je ne dis pas que nécessairement je reprends ces points à mon compte. Il y a un ensemble de choses qu'on pourrait discuter. Le premier point, d'ailleurs, sur lequel il y aurait pas mal de discussions à faire. On pourra le faire, d'ailleurs, ensuite dans les réponses aux questions. Mais en tout cas, c'est vrai que quand vous interrogiez des économistes qui travaillaient sur ces questions. Bon, voilà un peu ce qu'ils vous répondaient. Premier point, la politique monétaire ne peut pas stimuler durablement l'activité économique. Elle peut lisser les évolutions de l'activité économique, lisser les cycles économiques, mais elle ne peut pas doper durablement la croissance. Bon, c'est un point d'ailleurs d'actualité, puisque vous savez que parmi les discours qui ont été tenus ces derniers temps, il était dit bon, il faudrait que la politique monétaire de la BCE s'intéresse plus à la croissance qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Alors, ça dépend ce qu'on entend par s'intéresser plus à la croissance. Si en effet, c'est essayer aujourd'hui d'aider les pays européens à faire plus de croissance, les aider à trouver des politiques économiques plus souples de façon à favoriser plus la croissance, on peut l'accepter. Mais en tout cas, l'idée que la politique monétaire pourrait durablement agir sur la croissance, c'est une idée qui était récusée par l'ensemble des économistes travaillant sur ce domaine. Et par conséquent, on en déduisait, à tort, à raison, qu'il était préférable que la politique monétaire, les banques centrales, donc, privilégient la stabilité des prix, parce que là, pour le coup, elles ont affaire, elles ont une efficacité, alors qu'elles ne l'ont pas pour ce qui est de la croissance de long terme. Mais ça va même un peu plus loin. Il faut même que les banques centrales soient, comme on dit, crédibles, c'est-à-dire qu'elles s'engagent à maintenir la stabilité des prix, qu'elles s'engagent sur cet objectif de stabilité des prix et que, de surcroît, donc, elles soient crédibles, de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression que les banques centrales, quand elles le peuvent, pourraient essayer d'agir sur la croissance ou privilégier temporairement la croissance. Il ne faut pas que les banques centrales puissent temporairement, pour des raisons, par exemple, des raisons de cycle politique, essayer de sacrifier la stabilité des prix à la croissance. Et donc, parce que si elle le faisait, c'est-à-dire si, en effet, elle privilégiait la croissance plutôt que la stabilité des prix, alors il en résulterait une sorte de biais inflationniste, c'est-à-dire les agents économiques comprendraient ce que va faire la Banque centrale et, d'une certaine façon, ils feraient obstacle à cette volonté en demandant des augmentations de prix et de salaires, de sorte que, eh bien, on aurait une économie dans laquelle il y aurait plus d'inflation et finalement pas plus de croissance. Plus d'inflation et pas plus d'activité. C'est la fameuse thèse que les économistes connaissent sous le terme d'incohérence temporelle. C'est-à-dire que si la Banque centrale, à un moment donné, préfère, parce que justement l'inflation a diminué, qu'elle se dit, tiens, du coup, je pourrais faire plus de croissance, eh bien, ceci donnera effectivement lieu à de l'inflation sans gain en termes d'activité économique. C'est au nom de cette idée qu'on a promu le principe d'indépendance des banques centrales, de façon à ce que les banques centrales ne soient pas soumises à des pressions du politique, de façon à ce que les banques centrales ne soient pas incitées d'une façon ou d'une autre à renoncer à leur objectif de stabilité des prix ou à le pondérer plus faiblement dans leurs objectifs, eh bien, on a vendu l'idée qu'il fallait que les banques centrales soient indépendantes. Alors, sur cette question qui a fait couler énormément d'encre, de salive, etc., on pourrait discuter des heures. Je ne suis pas sûr du tout d'être d'accord avec ce point de vue. Si je regarde d'ailleurs l'histoire économique de la France, quand il y a eu désinflation en France, c'est pour une bonne partie, parce que cette désinflation, elle a été vendue politiquement au peuple français, pour reprendre un terme un peu grandiloquent, c'est-à-dire que M. Delors a dit moi je vous dis que politiquement, il faut qu'on arrive à une désinflation. On avait en point de mire peut-être déjà l'idée de la monnaie commune. En tout cas, je ne pense pas que ce soit l'indépendance de la Banque centrale qui ait créé la désinflation. Tout démontre l'inverse, d'ailleurs. Ce n'est pas l'indépendance de la Banque centrale, de la Banque de France, qui a créé la désinflation dans notre pays. Cette désinflation, elle a eu lieu dans le milieu des années 80. C'est bien une volonté politique. Bon. Enfin, n'empêche que c'était ça l'idée, l'idée qui a été moulinée par les économistes pendant un grand nombre d'années, avant que ça s'impose, finalement, dans le débat de politique économique. Et un point que vous pouvez percevoir directement aujourd'hui, puisque toucher à l'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est quasiment aujourd'hui devenu un sacrilège. Et pourquoi ? Parce que cette Banque centrale européenne est l'héritage de la Bundesbank, que d'ailleurs le statut de la Banque centrale européenne est strictement copié sur celui de la Bundesbank, y compris d'ailleurs le régime des retraites, et que donc cette Bundesbank, c'est celle qui a permis à l'Allemagne de restaurer la stabilité des prix à la suite des épisodes historiques que vous connaissez, donc de l'hyperinflation allemande. Enfin, en tout cas, dans le débat de politique économique, cette question de l'indépendance a eu une grande importance et on continue à cultiver ce culte, hein, de l'indépendance de la Banque centrale. Alors en contrepartie, ben, on dit qu'il faut que la Banque centrale elle soit suffisamment transparente. Et ça aussi, c'est un changement par rapport... Enfin, au cours de ces dernières années, on s'est assez convaincu qu'il fallait que la Banque centrale soit indépendante, à la fois parce que cette transparence, que la Banque centrale soit indépendante, mais est transparente dans sa politique monétaire, à la fois parce que cette transparence est un peu la contrepartie du pouvoir qu'on lui consent, de la délégation, hein, de pouvoir que fait le gouvernement, le politique, à cette agence particulière qu'est la Banque centrale, et ensuite parce qu'on pense que cette transparence a aussi du bon du point de vue de l'efficacité de la politique monétaire. Troisième point, les agrégats monétaires, vous savez, la masse monétaire, on s'est rendu compte au fil du temps, dans les années 80, que ces agrégats monétaires, en réalité, avaient peu de contenu en information, que dans les agrégats monétaires, il n'y avait pas vraiment d'informations suffisantes pour essayer d'appréhender, d'anticiper l'évolution de l'activité économique et l'évolution de l'inflation, et que donc essayer de poursuivre un objectif de croissance de la masse monétaire, ce n'était pas nécessairement un objectif utile, un objectif intéressant. Après qu'on nous ait expliqué qu'il fallait absolument, et sous l'impact du monétarisme, notamment du monétarisme de Milton Friedman, il fallait que la Banque centrale fasse croître de façon régulière la masse monétaire de façon à préserver la stabilité des prix, on s'est rendu compte en fait que ces agrégats, d'abord c'était de plus en plus difficile de définir ce qu'était la monnaie, et aujourd'hui encore plus qu'avant. Qu'est-ce que c'est exactement que la monnaie ? Quel est l'agrégat que je pourrais construire qui corresponde à un comportement stable de la part des agents économiques ? C'est-à-dire un comportement sur lequel je puisse m'appuyer pour pouvoir maîtriser l'activité économique et l'inflation, eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas dire, hein, parce que la déréglementation financière fait que vous avez des actifs qui sont de plus en plus substituables à la monnaie. Donc, on a abandonné les agrégats monétaires, ou comme l'a dit quelqu'un, ce sont les agrégats monétaires qui nous ont abandonnés, en ce sens qu'ils n'avaient plus suffisamment d'informations utiles pour qu'on puisse s'en servir. Et donc, en fait, l'idée de la politique monétaire, ça a été directement de se fixer des objectifs en termes d'inflation, plutôt que de passer par cet objectif intermédiaire qui était la croissance de la masse monétaire. De la même façon, on s'est convaincu que la meilleure solution pour le meilleur instrument pour diriger les impulsions monétaires, pour mener la politique monétaire, c'était plutôt les taux d'intérêt. Aujourd'hui, vous savez, tous les mois, on attend la décision de la banque centrale, savoir à quel niveau elle va porter ses taux d'intérêt, est-ce qu'elle va monter ses taux d'intérêt, est-ce qu'elle va les baisser, et peut-être plus encore, dans les conférences de presse qui suivent la réunion mensuelle, on essaye de deviner ce que pourrait être l'évolution à venir des taux d'intérêt. Quand, tout simplement, le gouverneur de la Banque centrale ne le dit pas, puisque vous savez qu'aux États-Unis, M. Ben Bernanke, donc le patron de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine, a déjà annoncé, il y a quelques mois déjà, que les taux d'intérêt resteraient pendant une période longue au niveau auquel ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire très proche de 0%. Donc, l'instrument, ce sont les taux d'intérêt. Quatrième point, la politique monétaire, et évidemment, là, on va rentrer directement dans notre débat, la politique monétaire ne doit pas, ne peut pas s'intéresser aux bulles de crédit ou de prix d'actifs. Alors, c'est un peu rapide. Ce que j'ai écrit là, parce que il y a eu derrière ça, derrière cette proposition, beaucoup de débats, et donc entre des chercheurs qui nous expliquaient qu'il fallait tenir compte des prix d'actifs, que ça pouvait être stabilisant, alors que d'autres, au contraire, considéraient que ce n'était pas le cas. Finalement, ce sont les seconds qui l'ont emporté, c'est-à-dire qu'on a considéré que la Banque centrale n'avait pas le pouvoir de connaître, d'abord, quelle était la bonne valeur des prix d'actifs, quelle était la bonne évolution des agrégats de crédit, et puis, d'autre part, que la Banque centrale n'avait pas le pouvoir d'agir sur ces bulles de crédit ou sur ces prix d'actifs. On va y revenir plus longuement tout à l'heure. Mais en gros, c'est imposé l'idée que finalement les bulles de crédit, les bulles de prix d'actifs, c'était pas très important. Que bien sûr c'était gênant, ça pouvait donner des crises, mais que lorsque ça allait se produire, il était préférable que la Banque centrale éponge a posteriori les conséquences de ces bulles, de ces déséquilibres, de ces crises, plutôt que d'essayer de les prévenir de façon aléatoire et coûteuse. Donc, c'est imposé l'idée que, finalement, les banques centrales devaient s'intéresser à la régulation macroéconomique, j'entends la stabilité des prix et le lissage de l'activité économique, mais devaient délaisser les objectifs purement financiers, la stabilisation financière, la lutte donc contre les bulles de crédit ou contre les bulles des prix d'actifs, sur lesquels, je crois, vous avez eu dernièrement une conférence. Donc au fond, l'idée, c'est la Banque centrale n'a pas à s'intéresser à ce qui est instabilité financière. Lorsque l'instabilité financière se présente, bien elle agira. Comme elle a agi, d'ailleurs, avec la bulle Internet. La bulle Internet a explosé. La Banque centrale est intervenue. M. Greenspan a mis ses taux d'intérêt, pas un zéro à l'époque, mais c'était 1% pendant une période assez longue. On va y revenir aussi. Et finalement, la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet, ça a laissé assez peu de traces sur le niveau de l'activité économique. Et donc, on peut se permettre ce genre de fantaisie, je ne sais pas quoi, une fois tous les 15 ans, une fois tous les 20 ans. C'est moins coûteux que d'essayer de stabiliser ces prix d'actifs ou de stabiliser cette évolution du crédit, parce que, en le faisant, je risque de compromettre mes autres objectifs, c'est-à-dire l'activité économique et éventuellement la stabilité des prix. Du coup, tout ça peut se formaliser, hein, se concrétiser dans une stratégie de politique monétaire qu'on a appelée les règles monétaires contingentes. Alors, pourquoi règles monétaires ? Ben parce que, vous voyez, l'idée, c'est qu'il faut faire en sorte que la Banque centrale, elle se dote d'une règle de conduite. Cette règle de conduite, c'est pas mal parce que c'est justement, ça participe à la transparence. Donc on sait comment la Banque centrale va agir, ça réduit de l'incertitude, ça apporte de la connaissance aux agents économiques. Et donc, il vaut mieux agir par règle que de façon, comme on dit, discrétionnaire, c'est-à-dire au coup par coup, et en changeant de stratégie de façon régulière. Pourquoi contingente ? Parce que l'idée ici, vous voyez, c'est à la différence, par exemple, de ce que proposait Milton Friedman. Milton Friedman, lui, proposait que la croissance, on fixe une croissance de la masse monétaire, fixe tous les ans la masse monétaire, mettons, doit augmenter de 2%, de 3%, de 5%. Bon. Donc, on se fixe une règle de croissance des agrégats monétaires et on s'y tient. Ça, c'est ce qu'on appelle une règle passive. Une règle contingente, c'est une règle qui va essayer d'ancrer les anticipations des agents, de leur donner un socle sur le long terme, mais une règle qui se permet de réagir aux évolutions de la conjoncture, qu'il s'agisse de l'évolution de l'inflation ou qu'il s'agisse de l'évolution de l'activité économique. L'exemple que Alexis connaît bien, puisqu'il a fait une grande partie, bon, peut-être la totalité, enfin non, pas la totalité, parce qu'il y avait beaucoup plus que ça dans sa thèse, en tout cas, une bonne partie de sa thèse, c'est ce qu'on appelle la règle de Taylor, qui a une historique assez long, parce que, en gros, Taylor avait réussi à démontrer que cette règle, vous voyez, j'explique rapidement, I, c'est le taux d'intérêt que manipule la Banque centrale, c'est une constante sur laquelle on ne reviendra pas, voilà. Et puis, alpha de pi moins pi étoile, c'est la Banque centrale va modifier son taux d'intérêt en fonction de l'écart qu'elle observe entre l'inflation aujourd'hui et pi étoile, l'inflation objectif. Et puis, bêta de y moins y étoile, ben, y, c'est l'activité économique aujourd'hui, y étoile, c'est l'activité économique de plein emploi. Donc, la Banque centrale, Taylor regardait dans le cas de l'économie américaine et il s'apercevait qu'au fond, une règle comme ça traduisait assez bien ce qu'avait fait la Banque centrale américaine sur les 10, 15, 20 dernières années. Quand l'inflation augmentait par rapport à l'objectif en gros hein, à peu près de 2%, eh bien la Banque centrale montait son taux d'intérêt pour essayer de calmer l'inflation. Lorsque l'activité économique diminuait, lorsqu'elle s'écartait du niveau de plein emploi, eh bien la Banque centrale allait baisser les taux d'intérêt. Alors, ensuite, sont venus un ensemble de chercheurs qui ont essayé de théoriser cette règle de Taylor, montrer comment on pouvait la justifier, d'une part, et trouver les coefficients, ici, alpha et bêta, qui soient les meilleures possibles pour stabiliser l'activité économique et l'inflation, à partir des comportements, des préférences de la Banque centrale. On peut arriver à déterminer la valeur optimale de ces coefficients alpha et bêta, étant donné un modèle l'activité économique, un modèle, mettons, de l'économie américaine ou de l'économie européenne. Donc, cette règle de Taylor est un bon exemple de ce qu'on appelle une règle contingente. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est que cette constante ici, elle va jouer le rôle justement d'ancrage des anticipations. C'est-à-dire que la Banque centrale s'engage à ce que l'inflation sur le long terme soit aux alentours de 2%. Mettons. Et ensuite, eh bien, elle va agir en fonction de ce qu'elle observe sur l'évolution effective et sur le niveau de l'activité économique pour ajuster son taux d'intérêt de façon à lisser les évolutions de l'activité économique, lisser les évolutions de l'inflation. Simplement, vous voyez, cette règle, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une règle d'instrument. Vous voyez, la Banque centrale serait susceptible de modifier son instrument en fonction de ses objectifs. Cette règle est une règle rigide. Et en réalité, il n'y a pas de banque centrale qui soit prête aujourd'hui, ni hier d'ailleurs, à s'engager sur une telle règle. Parce que, bon, tout peut arriver, maintenant on le sait encore mieux qu'hier, si c'est possible. La banque centrale souhaite sans doute se garder une marge de manœuvre pour agir. Et pour cette raison... les règles d'instruments sont peu utilisées. Vous ne verrez pas de banque centrale qui annonce qu'elle va bouger son taux d'intérêt de façon mécanique, comme c'est écrit dans une règle de Taylor. Alors, ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a progressivement théorisé une autre forme de règle qui s'appelle le ciblage d'inflation. Et le ciblage d'inflation, c'est quelque chose qui était très à la mode, qui est toujours à la mode. Le Fonds monétaire international en a fait un de ses principes lorsqu'il conseille tel ou tel pays. Le Fonds monétaire international a beaucoup contribué à diffuser cette idée de ciblage d'inflation. Alors, le ciblage d'inflation, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond une règle plus souple que la règle de Taylor qui est écrite ici. Ça consiste à dire, la Banque centrale va d'abord se fixer un objectif d'inflation, et elle va essayer d'atteindre cet objectif d'inflation, elle va en modulant son taux d'intérêt, mais elle va le faire de façon plus flexible. Elle va se fixer un objectif d'inflation, un objectif d'inflation à un horizon donné, peut-être d'ailleurs une fourchette. La Banque centrale va dire, je vais essayer de faire en sorte que dans 2 ans ou dans un an et demi, l'inflation soit comprise entre 3 et 2%, ou entre, 4 et 1%. D'autre part, la Banque centrale va publier des prévisions, c'est-à-dire que tous les 6 mois, par exemple, la Banque d'Angleterre, qu'on prend généralement comme exemple, même si ce n'ont pas été les premiers à le faire, la Banque d'Angleterre est en général prise comme exemple de cette stratégie de ciblage d'inflation, la Banque d'Angleterre, tous les 6 mois, publie un ouvrage assez volumineux sur ses prévisions d'inflation, pas seulement sur ses prévisions d'inflation, mais ce qui compte pour elle, c'est ça. C'est quelle sera l'inflation. Si je me suis fixé à 18 mois ou à 2 ans, je vais essayer de publier les évolutions de l'inflation. Qu'est-ce que je prévois pour l'inflation à 18 mois ou à 2 ans ? Ensuite, la Banque centrale va évidemment agir en fonction de ce qu'elle prévoit ou plus exactement de l'écart entre ce qu'elle prévoit pour dans 18 mois ou dans 2 ans en termes d'inflation et ce qui est son objectif. Si je prévois que l'inflation dans 18 mois sera à 3% alors que mon objectif c'est 2%, eh bien je vais resserrer ma politique monétaire, c'est-à-dire que je vais monter les taux d'intérêt. Et évidemment, inversement, si je prévois une inflation plus faible que mon objectif ou qui s'éloigne trop à la baisse par rapport à mon objectif, l'inflation n'ayant pas que des mauvais aspects, l'inflation, c'est aussi, comme on le dit parfois, peut-être de façon un peu approximative, c'est aussi de l'huile dans les rouages. Et c'est peut-être quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier par les temps qui courent. Donc, publication de prévision, et je m'explique, puisque je prévois, mettons, une augmentation de l'inflation, ben j'explique que je vais monter les taux d'intérêt pour essayer de contrer cette prévision qui est supérieure à mon objectif. Ensuite, ça permet des explications de ce que je fais et des discussions sur les résultats. C'est-à-dire que ensuite, je pourrais venir devant, je ne sais pas quoi, la commission du Parlement adéquate pour dire, eh bien, voilà, je me suis trompé, parce qu'en général, évidemment, on ne va pas réaliser totalement l'objectif, je me suis trompé, j'ai agi de telle et telle façon, et si je me suis trompé, c'est pour telle raison, parce que mon modèle de l'économie, mon modèle de prévision n'est pas le bon, parce qu'il s'est passé un événement que je ne pouvais pas prévoir, mettons une augmentation du prix des matières premières qui est totalement indépendante de mon comportement, de mes décisions, etc. Bref, on peut avoir, par cette discussion, on peut avoir une réelle transparence. Il ne suffit pas de dire, comme le dit d'ailleurs la Banque Centrale Européenne, nous on est très transparents puisqu'on publie un bulletin tous les mois et qu'on passe une fois par an ou deux fois par an au Parlement européen pour raconter ce qu'on a fait. Hein, on ne peut véritablement juger, on ne peut véritablement discuter que si on a un point de référence, une grille de lecture, et cette grille de lecture, eh bien, c'est précisément cette comparaison avec les prévisions, bref, cette stratégie de ciblage d'inflation. Alors, je crois vous avoir dit, il y a aujourd'hui 65 pays dans le monde qui font du ciblage d'inflation, plus ceux qui en font sans le dire. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils en font et qui ne le font pas. Mais la Banque Centrale Européenne, elle est quand même assez proche d'une stratégie de ciblage d'inflation. Elle a bien un affichage. Aujourd'hui, elle a des prévisions qui ne sont pas très détaillées, pas très précises, mais elle a effectivement quelque chose... Et puis, elle essaye de s'expliquer, même si, en effet, elle met même sur son site, maintenant, les modèles qui peuvent lui servir à prévoir l'inflation et l'activité à venir. Un des grands auteurs en matière de ciblage d'inflation, c'est Ben Bernanke, donc le patron de la Banque centrale américaine. Quand il a pris le poste de président de la Banque centrale de la Fed, tout le monde a dit, ben voilà, on va avoir quelqu'un qui va nous faire du ciblage d'inflation. En fait, il ne l'a pas fait. En tout cas, bon, la Fed n'a pas modifié sa stratégie de politique monétaire pour autant. Mais c'est vrai que ce que fait Ben Bernanke, ça ressemble beaucoup à du ciblage d'inflation, même si officiellement, ce n'est pas répertorié comme cela. À l'intérieur des modalités de ciblage d'inflation, il peut y avoir un certain nombre de différences d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, c'est vrai que progressivement, un grand nombre de pays se sont mis à faire ceci, c'est-à-dire donc cette utilisation de ce qu'on appelle des règles monétaires contingentes. Maintenant, vous voyez que dans cette règle monétaire, je n'ai rien mis sur la stabilité financière. Il n'y avait rien et conformément à ce qui a été dit précédemment, il n'y avait rien dans cette règle monétaire qui pouvait faire penser, qui pouvait même amener la Banque centrale à s'intéresser à la stabilité financière, donc à réagir, par exemple, au prix d'actifs, qui aurait pu être une autre composante de ma règle, ou pour réagir à l'évolution du crédit que j'observe. Alors, qu'est-ce que, par rapport... Là, je viens donc d'énumérer quelques points de consensus, mais enfin, les points essentiels du consensus, quand vous regardez les différents articles qui ont pu être écrits là-dessus, bon, en gros, ce que je viens de dire, vous le retrouverez dans ces différents articles, avec des variantes, si vous voulez, mais en gros, vous retrouverez toujours ça, c'était ça qui au fond, structurait la politique monétaire des États avancés, plus un certain nombre d'autres. Hein, dans les 65 pays dont j'ai parlé, il y a beaucoup de pays émergents, puisque ce ciblage d'inflation, c'était aussi une façon pour le FMI d'amener ces pays à avoir une crédibilité monétaire plus forte, dès lors que, par exemple, ils avaient renoncé à cibler le taux de change, c'est-à-dire avoir des taux de change fixes, qui est aussi une autre façon d'avoir une certaine crédibilité de la politique monétaire. Alors, qu'est-ce que cette crise nous a fait découvrir ? Découvrir ou redécouvrir ? Historiquement, là aussi, la formulation est un peu rapide. Historiquement, en fait, les missions des banques centrales, c'était trois choses. Ça a été la stabilité des prix. Si je remonte, les banques centrales, ça n'a pas toujours existé. Et même les banques centrales, elles se sont formées, au fond, sur leur forme moderne, au XIXe siècle. Bon, leur mission, ça a été la stabilité des prix. Ça a été le financement des guerres. Et ça a été la stabilité financière. Quand on regarde comment ces banques centrales se sont constituées, à un moment où existaient des banques, mais qui étaient des banques qu'on appelle aujourd'hui de second rang, c'est-à-dire des banques commerciales sans banque centrale, on s'aperçoit que ces banques ont eu, dans l'histoire, et ont été aux prises à des crises, des paniques bancaires. Donc elles ont essayé de s'organiser, et les organisations elles ont formé des clubs, par exemple, pour essayer de se soutenir les unes les autres lorsque l'une d'entre elles était attaquée. Et puis, ces clubs, d'ailleurs, ça se finissait toujours mal, parce qu'il y avait toujours certaines banques dans le club qui trouvaient plus utile de laisser faire faillite à des concurrentes qui pourtant étaient membres du club plutôt que de les sauver. Et donc, progressivement, a germé cette... Bon, de façon très différente d'un pays à l'autre, hein, les histoires sont différentes, mais au bout du compte, ont germé, pas du tout comme le disent un certain nombre de libéraux ou hyper-libéraux, parce que l'État a voulu imposer un monopole ou a voulu imposer l'existence d'une banque dont il pourrait tirer profit, mais simplement parce qu'il a fallu, effectivement, de façon tout à fait décentralisée, que se crée une banque qui est devenue une banque centrale, qui a ensuite reçu la bénédiction des États, mais des banques centrales qui ont joué ce rôle d'assurance parce qu'elles émettaient une monnaie qui était une monnaie admise, qui avait cours légal, qui était admise dans tous les cas de figure, dans toutes les situations de crise, et qui, par conséquent, pouvait renflouer les banques qui en avaient besoin. Donc, il est clair, oui, c'est vrai que probablement les banques centrales sont nées de ces questions d'instabilité bancaire, parce que l'existence d'une banque de premier rang permettait en effet d'assurer la pérennité des systèmes bancaires dans les différents pays. Là, on parle évidemment, on parle du Royaume-Uni, on parle un peu moins de la France, on parle des États-Unis, où on a effectivement une histoire riche de constitution de banques centrales, au début décentralisées. Donc, voilà, on redécouvre aujourd'hui que les banques centrales, elles ont cette mission importante. On ne peut pas dire qu'on l'avait totalement oubliée. C'est vrai que les banques centrales intervenaient, tout à l'heure je disais, intervenues dans la crise de la bulle Internet. Avant ça, il y avait eu le fameux LTCM, ce fonds qui avait fait des spéculations et qui a posé des problèmes à un grand nombre de banques américaines et au-delà. Et la Fed était aussi intervenue pour essayer de régler ce problème. On ne peut pas dire que cette mission avait été oubliée, mais vous avez vu que dans ce que j'ai raconté du consensus de politique monétaire, cette question avait été oubliée, et plus que cela. On disait, au fond, quand une crise arrive, eh bien, on résoudra le problème, on fera ce qu'il faut, ça sera moins coûteux que d'essayer de prévenir la montée de ces crises. Or, en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle une crise systémique. Alors, une crise systémique, c'est en gros une crise lorsque c'est l'ensemble du système bancaire et du système financier qui est touché. C'est que l'ensemble des composantes, ou en tout cas un grand nombre des éléments du système bancaire et financier est touché par la crise peut-être d'une banque ou par la faillite d'un marché du crédit, etc. À ce propos, voyez, les crises sur les marchés financiers, finalement, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Les crises bancaires, par contre, c'est toujours beaucoup plus grave. Cette crise est grave parce que c'est le système bancaire qui a été touché. Si certains d'entre vous se rappellent peut-être de la crise de 87 aux États-Unis, il y a eu un crack assez important. Le Dow Jones s'était tout à fait effondré, c'était même très impressionnant à l'époque, et tous on avait fait des conférences pour dire « il y a je ne sais combien de milliers de dollars qui sont partis en fumée, ça va être épouvantable ». Enfin, il ne peut pas ne pas y avoir d'influence de ce crack sur l'activité économique. C'était en l'occurrence un crack qui venait plutôt du côté de l'obligataire, et qui ensuite avait entraîné l'ensemble des marchés. En réalité, quand vous regardez, la fin des années 80 a été parmi les années les plus brillantes au plan de la conjoncture. Cette crise de 87 n'a laissé aucune trace. Éventuellement, si elle en a laissé, c'était plutôt parce qu'il y a eu des politiques expansionnistes qui ont été menées à l'époque, de sorte qu'on a eu une conjoncture meilleure que probablement que ce qu'on aurait eu sans la crise. La crise Internet, ça a laissé peu de traces. En revanche, cette crise est grave parce que c'est le système bancaire qui a été frappé, c'est-à-dire le système de paiement. Enfin, le système de paiement a tenu le coup. Il n'y a pas eu de difficulté de ce point de vue. En revanche, le système de crédit a été concerné. Et là, pour le coup, c'est à ce moment-là que la crise devient grave. Je redis que ceci est effectivement assez indépendant de la régulation conjoncturelle, assez indépendant de l'expression de la politique monétaire telle que je l'ai prise en écrivant la règle de Taylor, ou en parlant du ciblage d'inflation. Or, une bonne régulation macroéconomique, ça ne permet pas d'éliminer ou même de réduire l'instabilité financière. Vous pouvez même prétendre, et ça a été prétendu, qu'une bonne régulation macroéconomique, c'est susceptible d'accroître, ou d'entraîner plutôt, de faire germer l'instabilité financière. On était assez content des politiques monétaires menées au cours de ces 20, 25, 30 dernières années. Au point qu'on en est venu à parler de grande modération. Un certain nombre d'auteurs, pas les moindres, ont montré ou essayé de montrer que depuis le milieu des années 80, il y avait eu une réduction significative de l'importance des cycles de l'activité économique, des évolutions de l'activité économique. L'évolution de l'activité économique était plus stable, de même que, en même temps que les prix, l'inflation avait été vaincue, et l'évolution de l'inflation avait été stabilisée. On en déduisait d'ailleurs que c'est parce qu'on avait réussi à stabiliser l'inflation que du coup, l'activité économique elle-même avait été stabilisée. Bref, on était rentré dans, à partir du milieu des années 80, dans cette période de grande modération. Donc de très bonne stabilisation de la conjoncture macroéconomique. Aujourd'hui, certains disent, c'est peut-être parce qu'il y a eu cette grande modération, c'est peut-être parce qu'il y a eu cette bonne stabilisation de l'activité économique que, du coup, les agents économiques ont considéré que l'environnement était moins risqué, qu'on pouvait donc plus facilement faire crédit et que donc ceci aurait provoqué les bulles de crédit. C'est parce qu'on avait trop bien réussi la régulation macroéconomique que du coup, il y a eu cette prise de risque de la part des banques, de la part des marchés, enfin ce que vous voulez, et que donc la grande modération a entraîné une prise de risque supplémentaire. De plus, dans un environnement de faible inflation, fatalement, les taux d'intérêt sont plus faibles. Les taux d'intérêt doivent... Les taux d'intérêt, je parle des taux d'intérêt nominaux. Hein, les taux d'intérêt, enfin, je veux dire, bruts d'inflation, hein, sans qu'on ait retiré le taux d'inflation. Les taux d'intérêt nominaux, en principe, doivent suivre évidemment l'inflation. Si l'inflation est faible, les taux d'intérêt nominaux doivent être plus faibles. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, face à des taux d'intérêt plus faibles, la rentabilité des banques, comme la rentabilité des fonds, devient plus faible. Imaginez, lorsque le taux d'intérêt est plus faible, les marges bancaires se trouvent réduites. Lorsque un fonds s'est engagé à vous servir du 5 ou 6% et que les taux d'intérêt baissent, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de s'ajuster en investissant dans des actifs en principe plus risqués. Le canal de la prise de risque, c'est ça. Le canal de la prise de risque, c'est que lorsque les taux d'intérêt sont plus faibles, parce que l'inflation est plus faible, alors, on va prendre plus de risques. Lorsque les taux d'intérêt sont plus faibles, vous pouvez aussi dire, si les taux d'intérêt baissent, la valeur des actifs réels comme des actifs financiers, je veux dire l'immobilier, comme la valeur des actions et des obligations, va également augmenter. Si la valeur, mettons, de votre bien immobilier augmente, ça veut dire que vous présentez plus de garanties. Ça veut dire qu'un ménage qui veut acheter un bien immobilier explique à son banquier qu'il s'agit là d'un bien qui a une valeur plus importante et que donc... il peut lui donner en garantie un bien qui a une valeur plus élevée. Donc, là aussi, si les taux d'intérêt baissent, ceci fait augmenter la valeur des actifs, et cette augmentation de la valeur des actifs, eh bien, elle va également inciter à la prise de risque, parce que le banquier, ou d'ailleurs l'emprunteur lui-même, considère que il y a plus de garanties et que ce supplément de garantie est susceptible permettre un emprunt plus élevé. Donc, ne pas croire qu'une bonne régulation macroéconomique, en l'occurrence une bonne régulation de l'inflation, va se traduire par moins de risques financiers. Ça peut être l'inverse qui se passe. Ce canal de la prise de risque a notamment été développé par des économistes de la Banque des règlements internationaux. J'y reviendrai également parce que la question est, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait ? Dans certaines circonstances, les circonstances que nous connaissons, la politique monétaire conventionnelle, celle dont on a parlé, cette fixation des taux d'intérêt en fonction des déséquilibres macroéconomiques, la politique monétaire conventionnelle devient inefficace. Mettons pour deux grandes raisons, mais il y en a beaucoup d'autres. La première, c'est que, bon, on le voit bien aujourd'hui, on vient buter sur la contrainte dite de non-négativité des taux. Évidemment, vous ne pouvez pas faire baisser les taux d'intérêt en dessous de zéro, parce que en dessous de zéro, il vaut mieux que vous gardiez de la monnaie, vous aurez au moins une rémunération nulle, mais pas négative. Donc vous ne pouvez pas faire baisser les taux d'intérêt en dessous de zéro. Or, il y a des moments où il faudrait essayer d'avoir des taux d'intérêt réels qui soient plus faibles, éventuellement, bon, je ne dis pas forcément négatifs, mais qui soient plus faibles. Supposez que, là je vais parler de taux d'intérêt réels, c'est-à-dire de taux d'intérêt nominaux moins l'inflation. Supposez par exemple que l'inflation baisse, que vous avez en gros une situation de déflation, les prix baissent, qu'ils baissent de 3%. Donc vous avez une déflation, une désinflation de 3%. Ça veut dire, si vous mettez les taux à zéro, ça veut dire que les taux d'intérêt réels, ils sont de 3%. C'est-à-dire que face à une situation où les prix baissent, même en mettant les taux d'intérêt à zéro, je vais avoir des taux d'intérêt réels qui vont être positifs. Et donc 3%, ça peut bloquer des investissements. En tout cas, ça peut ne pas inciter à investir. Situation que le Japon pratiquement connaît depuis le début des années 90, puisqu'ils ont des taux d'intérêt très faibles, mais aussi des taux d'inflation très faibles. Donc il y a un moment où je ne peux plus baisser les taux d'intérêt réels. Je voudrais baisser les taux d'intérêt réels, par exemple, pour relancer l'investissement. Je ne peux pas, parce que j'ai mis mes taux à zéro et je ne peux pas aller, évidemment, plus loin. Donc, dans ces circonstances, évidemment, la politique monétaire perd toute efficacité. De même, et là, de façon peut-être plus intéressante, enfin, moins cas de figure, moins hypothèse d'école, le problème aujourd'hui, c'est, vous savez, la Banque centrale, elle baisse ses taux d'intérêt et pour autant, le crédit ne repart pas. Le crédit ne repart pas parce que les banques ne répercutent pas l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale. Donc la Banque centrale peut baisser ses taux d'intérêt. En fait, si les banques de second rang ne le répercutent pas pour plein de raisons, par exemple parce que elles anticipent que les taux d'intérêt vont remonter à l'avenir, et fatalement, ils finiront par remonter, enfin, en tout cas, on le souhaite, elles vont pas nécessairement répercuter la baisse des taux d'intérêt. Elles ne répercutent pas non plus la baisse des taux d'intérêt parce qu'elles ont des problèmes de liquidité. Elles ne répercutent pas les taux d'intérêt parce qu'elles ont des problèmes de recapitalisation. C'est-à-dire que leurs capitaux propres sont insuffisants, et leurs capitaux propres étant insuffisants, elles sont incapables de prêter si ce n'est à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, dans ces conditions, effectivement, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir utiliser les politiques dites non conventionnelles c'est-à-dire des politiques qui vont faire quoi ? Qui vont amener les banques centrales à racheter des titres sur le marché, ce qu'a fait la Banque centrale américaine, ce qu'a fait aussi en partie la Banque centrale européenne, mais moins. Hein, considérez, vous voyez, que depuis le début de la crise, le bilan de la Banque centrale américaine a été multiplié par 3. Le bilan de la Banque centrale américaine a été multiplié par 3, c'est-à-dire que la Banque centrale a acheté un ensemble de titres parce que les banques étaient incapables de faire le travail d'offre de crédit. Et en contrepartie, eh bien, évidemment, à partir du moment où vous avez un gonflement de vos actifs, il faut que vous ayez un gonflement du passif. Et la contrepartie, c'est l'augmentation de la monnaie banque centrale, ce que on traduit dans le langage journalistique par « on fait marcher la planche à billets », qui est une expression dont j'ai particulièrement horreur, parce que bon, c'est une très mauvaise façon de... D'abord, on n'a jamais fait marcher la planche à billets pour ce genre de choses. Ensuite, parce que on a l'impression qu'il y a de la monnaie qui est jetée dans l'économie. C'est évidemment pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, la banque centrale, eh bien, elle va sur le marché pour acheter des titres d'entreprise, par exemple, et aussi des titres de dette publique. C'est le quatrième point, c'est-à-dire que dans une situation de crise, eh bien, les banques centrales se sont remises, la Banque centrale américaine, le Royaume-Uni, ces banques centrales se sont remises à acheter de la dette publique, acheter des titres d'État, ce qui clairement remet en cause l'indépendance de la Banque centrale, puisque c'est une façon pour la politique budgétaire de forcer la Banque centrale à acheter des titres publics, à émettre de la monnaie contre l'achat de titres publics. Donc, on se trouve à ce moment-là dans une situation où, en effet, les banques centrales perdent leur indépendance. Hein, on parle de dominance budgétaire, c'est-à-dire que la politique budgétaire prend le pas sur l'indépendance de la politique monétaire, contraint la politique monétaire à faire ce qu'elle ne veut pas faire, ce qu'elle ne voudrait pas faire, peut-être, parce que, eh bien, si elle ne le faisait pas, on se trouverait dans une situation qui est au fond un peu la situation, de l'Europe aujourd'hui. Quand vous interrogez les agences de notation, ce sont généralement des gens beaucoup plus raisonnables qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. Quand vous leur demandez comment se fait-il que vous dégradez la France, et vous allez encore la dégrader dans les mois qui viennent, et ils ne nient pas, que vous ne dégradez pas le Royaume-Uni, alors que les fondamentaux, comme on dit, du Royaume-Uni sont plus dégradés que les fondamentaux de la France. Je veux dire, si vous regardez en termes de, je ne sais pas quoi, de croissance, d'inflation, de déficit budgétaire, les fondamentaux du Royaume-Uni sont plus mauvais que ceux de la France. La réponse, c'est, eux, ils ont une banque centrale qui accepte d'acheter de la dette publique, alors que la Banque centrale européenne, jusqu'à une période toute récente, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, elle le refuse. Alors, je ne sais pas combien de temps elle le refusera. En tout cas, elle le refuse de façon suffisamment rapide et importante. Donc, évidemment, la Banque centrale peut toujours refuser, sauf qu'il y a un moment où elle perd sa légitimité. Il y a un moment où, lorsque la BCE continuera à laisser les pays européens s'enfoncer dans la crise sans vouloir agir, il y a un moment où on finira par demander des comptes à la Banque centrale européenne et ce n'est pas sûr qu'elle garde dans ces conditions son indépendance. Il y a un moment où il faut effectivement avoir un peu le goût des compromis. Dernier point, en fait, qui annonce juste, enfin, fait transition avec ma dernière partie, pour les différentes raisons que je viens d'évoquer, on se dit bien que, étant donné le coût de ces crises, qui est énorme, le FMI, le Fonds monétaire international, considère que cette crise va coûter globalement en moyenne quelque chose comme... avec l'évaluation la plus conservatrice. Au moins 20% du produit intérieur brut des pays avancés. 20% du pays intérieur brut. Donc le coût de cette crise est énorme, va être énorme. Donc, pour le coup, vous ne pouvez plus dire, OK, ce n'est pas très grave, les crises. On verra quand le problème se posera. Et à ce moment-là, on épongera les conséquences de la crise, comme on l'a fait en 87, comme on l'a fait avec la bulle Internet, etc., plutôt que d'agir préventivement, ce qui nous poserait des problèmes de régulation.